Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bienvenue dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique, Eric Manirakiza avec vous. Ce soir, nous parlons des perspectives africaines après le plaidoyer du président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine Macky Sall lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Ramayad, directrice du programme Afrique de Atlantic Council, est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Karine Kaneza-Nantulia, directrice à Human Rights Watch, en charge du plaidoyer en Afrique. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Ismaël Diallo, ancien haut fonctionnaire onusien, aujourd'hui à la retraite. Bonsoir.
Bonsoir. Parlez aussi de mes fonctions. Au pays, c'est plus important pour moi que les Nations Unies.
Monsieur Diallo, j'aime jouer au jeu de dames, donc j'ai commencé à ma présentation par des dames, mais vous n'allez pas être fâché, et je sais que vous êtes...
Je suis enchanté que vous ayez commencé par des dames.
Et je sais que vous êtes un fervent défenseur des droits de la femme.
Ah oui, pour moi, toute femme est ma mère d'abord, avant d'être autre chose.
Merci, Monsieur Diallo, d'être avec nous. Ramayad, je vais commencer avec vous. Est-ce que, au niveau de Atlantic Council, qu'est-ce que ce discours du président Macky Sall aux Nations Unies va, disons, influencer ou réorienter à l'action de votre organisation en Afrique?
Je ne suis pas basée sur le continent africain. J'y vais souvent, évidemment, pour confronter cette théorie que je développe ici et la réalité le plus possible. Vous savez, on a tous un rôle, bon, différent. Moi, ma vocation, sans doute, nous ne sommes pas une île. L'Afrique n'est pas une île isolée du reste du monde. Et ça a toujours été un continent ouvert, même à ses dépens. Donc l'idée, c'est que ça ne soit plus à ses dépens. En tout cas, c'est ça que j'essaie de faire. Et qu'au contraire, le monde soit conscient, y compris occidental, du legs africain qui est en lui. Depuis Picasso aux sculptures grecques, l'Afrique est partout, et pas que dans ses diasporas. Et partant de cette donnée-là, il faut décliner dans des secteurs très opérationnels. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est que ce soit dans le domaine de la sécurité, de l'économie, du commerce, du business, du climat, de la culture, de transformer ces partenariats en quelque chose de positif pour l'Afrique. En matière de sécurité, il n'y a pas que l'option militaire, il y a aussi la voix des populations civiles dans le Sahel qu'il faut entendre, des communautés qui ont des solutions. En matière, par exemple, de culture, il est important que l'Afrique maîtrise ses propres outils en matière digitale, en matière culturelle. Il faut qu'on ouvre des cinémas en Afrique pour que l'Afrique puisse dire qui elle est, pour dire son histoire. Il faut que ses artistes disposent de la propriété intellectuelle, qu'on arrête de voler leurs œuvres. C'est important, par exemple, en matière de climat, qu'on encourage la climate finance, pas seulement le don, qui ne vient pas de toute façon de la communauté internationale, parce qu'elle a aussi, chaque pays a ses problèmes. Donc voilà, sur les questions migratoires, plutôt que de déplorer ce qui se passe en Méditerranée, peut-être qu'on peut travailler à faire émerger des marchés économiques autonomes sur le continent africain pour créer des emplois pour les jeunes dans tous les domaines, même dans le sport. Pourquoi laisser partir les jeunes sportifs africains alors qu'on peut créer des métiers du sport en Afrique même? C'est pour ça qu'on avait fait ce grand Sports Business Forum à Dakar avec la NBA, pour que justement les jeunes africains puissent jouer dans des clubs prospères en Afrique.
Karine,
le travail que l'on fait lorsqu'on fait un plaidoyer, et tout autant que l'on est sur cette émission ou ailleurs, il y a des centaines d'activistes qui font un plaidoyer justement pour changer le narratif. On ne peut le faire que lorsque l'on a l'espoir dans nos cœurs, d'accord ? On est des Africains sur cet appel, donc il y a un espoir panafricaniste, il y a un espoir panafricain qui sous-tend le travail que l'on fait, que ce soit au sein de Human Rights Watch, que ce soit à Atlantic Council ou au Burkina Faso. Alors, deux choses. La première, c'est que en termes de solutions, d'avancées, on n'en a pas parlé, mais il faut quand même qu'on garde un œil sur le développement des initiatives, la multiplication des initiatives par les artistes africains. Que ce soit au niveau des médias, que ce soit surtout au niveau de la cinématographie, c'est quand même époustouflant. Là, on est aux États-Unis. Moi, mes films, maintenant, elles sont sur Nollywood, elles sont sur Netflix. Il y a plein de séries sud-africaines, etc. Et mon Dieu, l'espoir, le soulagement que cela amène à leurs parents, voilà, il faut quand même le remarquer. Donc ça, c'est la première chose. Cette rencontre entre l'activisme, le rejet de l'histoire et les arts est une chose assez extraordinaire qui est en train de se développer en Afrique. La deuxième chose, c'est que le poids du colonialisme, je vais vous donner un exemple très simple. 2020, une résolution est introduite au sein du Conseil des droits de l'homme. Elle est introduite par le bloc africain qui était dirigé par le Burkina Faso. Nous étions tous derrière. Nous avions eu des conversations à n'en plus finir avec les uns et les autres. C'était une résolution qui venait d'être introduite après le meurtre de George Floyd. Donc, qui justement demandait l'établissement d'une commission d'enquête qui commencerait à travailler aux États-Unis pour justement regarder non seulement l'impact, mais aussi les manifestations du racisme aux États-Unis et ailleurs probablement, parce que c'était vraiment le entry point. Deux jours avant que le vote soit mis sur l'agenda, c'est le même groupe africain qui a retiré cette résolution, qui l'a remplacée par une autre résolution qui demandait un truc très vague, rapport du haut commissaire des droits de l'homme une fois par an sur etc., etc. Évidemment, nous avons bien compris des pressions du bloc, évidemment des pressions occidentales qui avaient été exercées, mais le fait que cela n'arrive pas tous les jours, le fait qu'il y ait justement l'opportunité de jouer un rôle prépondérant par des Africains dans une arène internationale venait d'être étouffée. Et donc, moi personnellement, cela m'a fait vraiment réfléchir. Parce que je me suis dit, si on n'est même pas capable de faire ça, lorsqu'il ne s'agit pas d'un vote sur un des pays africains, d'accord, et qu'on ne soit pas capable de faire ça, bah, voilà, la question reste ouverte, le chemin reste long, voilà. Mais on garde espoir.
Monsieur Diallo,
je persiste à penser que les dirigeants africains, peut-être un sur quatre ou un sur cinq, que l'intelligentsia, ce qu'on appelle les intellectuels, nous avons développé au fil des décennies et des siècles un esprit de paresse intellectuelle, de dépendance, de conviction que l'autre est toujours plus intelligent que nous et que nous avons toujours besoin de son assistance. Notre problème est là. Combien d'idées de chez nous, pensées chez nous, sont exécutées par nous? Et nous n'avons même pas honte que le budget de l'Union africaine soit à majorité financé par l'Union européenne. Et qu'est-ce que nous pouvons exiger de l'Union européenne dans ce cas? Pourquoi est-ce que des pays n'ont pas pensé à elles-mêmes créer l'unité ou encourager l'unité? Et je pourrais citer plusieurs, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau. Je pourrais penser au Niger, au Mali, au Burkina et bien d'autres. Pourquoi? Nous avons tout en commun, mais nous refusons de le faire parce qu'on n'est pas venu nous dire que c'est la meilleure option pour nous et on ne le fera pas. Et nous refusons de le faire aussi parce que chacun veut être un petit chef chez lui. Et il est grand temps. L'Afrique commence à s'aimer, que les Africains commencent à s'aimer et à croire en l'Afrique et à avoir une vision de l'Afrique. Mais tant que ce n'est pas cela, nous continuerons d'être les derniers des marches. Et je ne me fais pas d'illusions là-dessus. J'ai peut-être l'avantage ou le dévantage ou le désavantage d'être à la retraite et de dépendre de personne. Mais je crois plutôt que c'est beaucoup plus grave que cela. C'est notre incapacité d'avoir une vision qui dépasse les individus.
Oui, d'ailleurs, l'exemple que vous citez, la Gambie, le Sénégal, bon, l'homme à la tribune des Nations Unies dont nous parlons aujourd'hui a été celui qui a inauguré le pont de Sénégambie en 2019 pour justement remédier à cette aberration qui consistait à contourner tout un pays alors que un pont pouvait facilement relier les deux pour pouvoir faire du commerce. Donc c'est dire que je pense que certains sont conscients, mais vous voyez bien en disant cela, comprenez bien l'origine de cette absence de coopération. Le legs colonial, par deux puissances occidentales différentes, ont conduit à creuser ce fossé entre deux pays limitrophes, voire même insérer l'un dans l'autre. Voyez.
Excusez-moi, Mayotte, mais quand allons-nous nous libérer de cela? Depuis combien d'années, quand avez-vous vu un président de l'Afrique australe venir en visite en Afrique occidentale? Et inversement.
J'allais y venir.
Quand est-ce que l'anglais et le français vont continuer d'être des barrières entre nous?
J'allais y venir.
Excusez-moi.
Je pense qu'il y a des initiatives qui se prennent. Moi, comment vous dire, je ne suis pas représentant d'un quelconque gouvernement ici, hein. Donc, je suis comme vous, dans une forme de retraite. Je ne suis payé par aucun gouvernement. Je travaille dans une organisation non gouvernementale et en toute indépendance, je bâtis un programme Afrique au sein de cet institut de recherche, tout ça pour pouvoir penser cette Afrique nouvelle, sa place dans le monde et cette centralité qu'elle a toujours eue. Et qu'il faut revendiquer. Mais je n'appartiens pas, comment vous dire, j'ai passé l'âge, disons, d'être dans la critique permanente de l'Afrique, parce que je trouve que tant de monde le fait tellement tout le temps que j'ai plutôt envie d'encourager, de soutenir, de promouvoir des solutions, de changer le narratif. L'Afrique est très affaiblie par ses procureurs, et qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc c'est la seule raison pour laquelle donc j'essaye un peu d'être dans une posture d'encouragement et de solution. Et donc oui, je suis d'accord. Bon, une fois qu'on a dit c'est pas bien, bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Donc je vous dis voilà, il y a un pont qui est construit entre le cœur de la Sénégambie. Et c'est un petit pas qui aurait dû être accompli il y a très longtemps. Parce qu'effectivement, on ne peut pas vivre toujours dans la plainte du colonialisme. Mais on n'en a pas tiré non plus toutes les conséquences. Les Africains sont un peuple traumatisé. Et c'est ce qui explique ce que disait Karine tout à l'heure. Pourquoi la vie a peut-être moins d'importance ailleurs? Parce que ces vies ont été fracassées par des chocs historiques d'une ampleur qu'aucun autre continent n'a subi. Et on n'a pas eu le temps de passer ce cap-là. Pourquoi la psychologie a si peu d'importance en Afrique et tellement ailleurs? Pourquoi on parle de résilience beaucoup à propos des Africains? Comme si c'était juste à la fois des victimes, mais moi j'ai envie de voir aussi des survivants. Mais les survivants, ils traînent beaucoup de casseroles psychologiques, de chocs historiques. Et ça, il va falloir un jour, parce que c'est ce qui explique pourquoi les pays n'arrivent pas forcément à s'entendre, pourquoi les peuples n'arrivent pas à faire unité. Parce qu'il y a des chocs historiques et des chocs psychologiques massifs qui n'ont pas été surmontés, voyez. C'est pour ça que le leadership est tellement important. C'est pour ça qu'il est tellement important d'avoir une vision, de dire à ces populations, voilà où nous voulons vous amener. Voilà comment nous allons surmonter ces chocs historiques. Voilà pourquoi la vie, c'est important. Quand, effectivement, il y a des inondations, des éruptions volcaniques qui créent des traumatismes dans tel ou tel village, on voit peu de chefs d'État africains d'un pays aller visiter l'autre. Et beaucoup dénoncent le fait qu'ils sont prêts, ces chefs d'État, à aller à Paris quand il y a des actes de terrorisme pour dire leur compassion. Mais ils ne le font pas beaucoup lorsque on ne voit pas des Africains aller visiter nos amis du Mozambique lorsqu'ils subissent des inondations meurtrières. C'est vrai, mais à cause de ces chocs historiques-là, à cause de la banalisation des drames. Et donc, il faut redonner une importance à la vie, aux droits humains, à la dignité humaine. Ça, c'est très important. Mais pour ça, c'est un travail en interne qu'il faut faire.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Monsieur Diallo, sur la question de l'Ukraine, comment vous analysez la position de l'Union africaine qui n'est pas capable de condamner ou ne pas condamner ce qu'on appelle aujourd'hui l'annexion de certaines régions de l'Ukraine par la Russie?
Vous avez émis deux questions, deux opinions qui reflètent vraiment l'Afrique. Vous dites qu'il n'est pas capable de prendre une position et qu'il n'a pas la même position. Voici notre faiblesse. Et ça fait plus de 60 ans que ça dure. Et ça continuera à durer tant que nous n'allons pas accepter de nous unir. Nous continuerons d'être faibles et nous ne continuerons pas à travailler. Lorsque des gens disent que les États-Unis veulent contenir ou pire, déstabiliser la Russie, on croit que c'est une vue de l'esprit. Et en écoutant les médias occidentaux, les Russes ont tous les torts. Je ne dis pas que l'un a plus de tort que l'autre. Ça, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas ma querelle. Mais je dis simplement que c'est une guerre voulue par les États-Unis, dirigée par les États-Unis. Et les États-Unis ont un agenda. Qui n'a pas remarqué que tous les 10, 15 ans, maximum 20 ans, les Américains ont besoin d'une guerre pour des raisons personnelles, industrielles, économiques, etc. Et il ne faut pas oublier cela. Maintenant, sur l'Afrique, encore une fois, tant que nous n'aimerons pas l'Afrique plus que nous-mêmes, plus que nos individualités, mais nous n'irons nulle part et nous resterons au bas de l'échelle. Ça ne me fait pas plaisir de le dire. Ça me fend le cœur de le dire. Mais je le dis parce que c'est la vérité. Je pense enfin que tous les trois, vous interviewés, nous pensons la même chose. Nous le disons autrement, à travers des chemins différents. Mais en vérité, je crois que ce que nous disons convergeons vers quelque chose de bon pour l'Afrique.
Mais c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine.
Oui, ça dépend de quand est-ce que vous commencez l'histoire. Si vous commencez l'histoire avant, il y a un an, ce n'est pas forcément la Russie qui a agressé l'Ukraine. Combien de fois là, les États-Unis et l'OTAN ont agressé différentes manières la Russie? Quand il y a eu des accords entre l'OTAN et la Russie, l'OTAN a promis, mais vraiment promis la main sur le cœur, qu'elle ne fera pas une extension d'un centimètre vers l'Est. Elle ne s'est pas empêchée de le faire. Elle ne s'est pas empêchée de diviser ce qui était le bloc soviétique. Alors ça dépend de où est-ce qu'on commence l'histoire.
Ouais, mais moi je crois que les États-Unis ne sont pas parfaits, mais que les États-Unis aient besoin d'une guerre, ça me semble un peu fragile, parce que dans ce cas, pourquoi ils se sont retirés de l'Afghanistan? Ils auraient pu faire une guerre là-bas, encore. Et puis vous connaissez très bien la politique américaine intérieure, avec cette pression populiste sur la démocratie américaine qui n'encourage pas à aller vers des guerres. Au contraire, je crois même que
cette administration... Je suis désolé, madame, mais je crois qu'on abuse du terme démocratie.
Restons sur le problème que vous soulevez. Enfin, si vous, après, on peut faire un grand débat sur la démocratie américaine ou pas la démocratie américaine. Mais là, on parle de la guerre en Ukraine. Et là-dessus, je vous dis, moi, je ne vois pas où est le besoin américain de faire des guerres, là, actuellement, sachant que, sinon, pourquoi ils se seraient retirés d'Afghanistan, où ils avaient l'occasion de continuer. Et puis en interne, quand on regarde la vie politique, oublions le mot démocratie, la vie politique américaine, l'analyse que j'en fais, moi, c'est que surtout pas envoyer les boys à l'extérieur. Au contraire, quiconque fait ça, vu la situation actuelle, se risquerait à avoir l'opinion contre elle, quelle que soit l'administration. Donc moi, je crois plutôt que, enfin, si on revient aux problématiques africaines, c'est vrai qu'on chacun dit quelque chose qui correspond à une réalité de la situation aujourd'hui en Afrique. Mais encore une fois, je crois que nous sommes entrés dans un nouveau cycle historique. Je veux dire, à l'échelle du monde, il est en train de se passer quelque chose. Les bouleversements que connaît le monde depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années sont absolument titanesques. On ne sortira pas de ce cycle géopolitique les mêmes qu'auparavant. Et l'Afrique, je pense, on sortira plutôt gagnante. Même si la situation est difficile, les défis sont majeurs. L'Afrique est incontestablement la nouvelle frontière. Je veux dire, juste avant le Covid, ce continent hébergeait 60% des économies les plus dynamiques. 6 sur 10, 6 parmi les 10 économies les plus dynamiques au monde étaient africaines. Sa classe moyenne est en train d'atteindre le milliard de personnes, ce qui veut dire des consommateurs et des clients. L'Afrique est en train de bâtir la plus grande zone de libre-échange au monde. C'est aussi effectivement une terre de compétition entre les grandes puissances. La Chine, les États-Unis, la Russie, si vous voulez, mais il y a aussi les puissances régionales, de la Turquie au Qatar. Ce n'est pas un hasard. Ça a toujours été le cas, me direz-vous, à l'échelle de l'histoire. C'est un continent disputé. C'est aussi un continent stratégique, le plus vieux. Les femmes africaines ont donné naissance à l'humanité. Je ne cesserai jamais de le rappeler. Parce qu'un autre continent, si ça s'était passé ailleurs, un autre continent ne cesserait de le répéter tous les jours. Le continent le plus jeune, c'est une promesse d'innovation et d'avenir. C'est mieux que d'être un continent de retraités. D'accord? Enfin, en tout cas, à mon avis. bientôt par région la plus importante, la plus dynamique en termes démographiques. C'est le continent qui a connu la plus grande révolution digitale de ces 20 dernières années. Ça nous porte jusqu'à aux questions de métavers, d'intelligence artificielle. C'est peut-être mal, mais c'est quand même le futur. Bon, etc., etc. J'ai parlé des terres arables, les technologies vertes. C'est là aussi qu'on les trouve, plus qu'ailleurs. Bon, les monnaies digitales, c'est aussi là qu'elles sont testées. Bon, je ne veux pas apparaître comme ignorant des problèmes africains, mais j'ai envie d'encourager ce continent à persister, parce que c'est un continent qui est au travail. Et les cycles politiques sont longs. Les changements géopolitiques actuels sont majeurs. Et ça, il faut en tenir compte. Nous, pourquoi, au niveau d'Atlantic Council, dans mon programme Afrique, quels sont les sujets majeurs sur lesquels je travaille actuellement? Je travaille actuellement sur les questions de climat, parce que ce continent subit les chocs climatiques les plus importants, alors qu'il est le moins responsable de cela. Mais en même temps, les solutions les plus innovantes sont là. Sur les questions d'économie, c'est sur ce continent qu'on bâtit, je vous l'ai dit, la zone de libre-échange la plus importante, où on teste les éléments les plus futuristes. Même l'Afrique en tant qu'humanité, je veux dire, les diasporas africaines font partie aussi de l'Afrique. On en trouve pas seulement aux États-Unis comme source de création, de créativité, d'innovation, mais on en trouve aussi en Iran, au Pakistan. Je veux dire, ça, c'est des promesses d'hybridation culturelle extraordinaire pour l'avenir. En matière de... Partons sur les industries créatives, dont parlait Karine à l'instant. Le portfolio de Netflix, qui est quand même un groupe américain, est de plus en plus colonisé par Nollywood, si je puis m'exprimer ainsi. C'est qui est la promesse d'un soft power africain, d'un narratif qui est impulsé par l'Afrique, qui, je rappelle, abrite 20 000 langues, qui sont pas seulement un patrimoine pour les Africains, mais pour l'humanité entière. Donc pardonnez-moi, mais lorsqu'on regarde tout ça, et qu'on est à l'échelle de l'histoire, et non pas des 5, 6 derniers mois ou dernières années, eh bien je peux vous dire que la nouvelle frontière, elle est encore Afrique. Je voulais, comme Karine, faire du plaidoyer, mais dans un secteur peut-être, de manière peut-être plus stratégique, pour que nous prenions la mesure de ce qui est en train de se passer et de tirailler le continent africain. Voilà.
Karine ?
En écoutant Madame Amayad, l'idée que j'avais s'est un petit peu évaporée. Mais juste pour dire que ce que je pourrais dire, c'est que sur la question du plaidoyer, en Afrique, je pense qu'on a besoin d'être innovateur. Cette phase dans laquelle nous nous trouvons va laisser des séquelles, mais elle présente aussi des opportunités. Human Rights Watch est une institution, un organisme des droits de l'homme. Nous faisons beaucoup de recherches, mais au niveau du plaidoyer, c'est vraiment, par exemple, c'est vraiment mettre en place des outils et des processus qui renforcent la synergie entre les différents acteurs, et non pas seulement les acteurs politiques, mais que ce soit, par exemple, les leaders traditionnels, les leaders religieux, les médias africains. Par exemple, nous sommes en train de préparer conférence conjointe avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et les médias africains, par exemple. C'est une discussion que nous avons engagée depuis quelque temps. Parce que, encore une fois, lorsqu'on parle du narratif, comment est-ce qu'on construit un narratif? Lorsque, par exemple, voilà, un grand exemple, un bon exemple, est justement ce discours du président Macky Sall. Couvert par France 24, Al Jazeera, etc., etc., nous avons des médias africains. Où est-ce qu'ils étaient? Où est-ce qu'ils sont? Nous ne les sentons pas.
Monsieur Diallo, on va terminer avec vous très rapidement.
Je résumerai mon propos en disant tout simplement que j'ai espoir aux Africains, les jeunes Africains qui créent, qui inventent. J'ai espoir aux jeunes Africains. Je n'ai aucun doute que l'Afrique se relèvera grâce aux jeunes, femmes, filles et hommes. Ceux qui ne me donnent pas espoir, ce sont les dirigeants et c'est les classes politiques, la classe politique et les 10 intellectuels. Eux sont trop lâches, eux en sont trop d'intérêt à préserver. Alors là, pour eux, l'Afrique peut attendre.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. Merci à nos invités. Ramayad, directrice du programme Afrique de Atlantic Council. Merci beaucoup.
Merci.
Karine Kaneza-Nantulia, directrice à Human Rights Watch, en charge du plaidoyer en Afrique. Merci.
Merci et merci à mes co-panélistes pour cette discussion intéressante.
Ismaël Diallo, un acteur de la société civile au Burkina. Merci beaucoup.
Merci et je me sens privilégié d'avoir discuté avec cette dame. Merci.
Merci aux auditeurs de VOA Afrique.
Michel Joseph a assuré la mise en onde. Eric Manirakiza au micro. Excellente soirée à vous tous et bon week-end. À la prochaine.